Chapitre 4. Deux guitares. Les Chrome Roses, la foudre de Skytop. Avec le recul, on se dit que nos vies suivent un schéma. Le moindre événement commence à nous sembler logique, comme si quelque chose ou quelqu'un avait programmé tous nos pas et nos faux pas. Prenez ce mal embouché de retraité qui, sans le savoir, a décidé du boulot que j'ai fait pendant 25 ans. Vous appelez ça le destin ou juste le hasard? Moi, je ne sais pas. Comment je le saurais? J'étais même pas là le soir où Hector le barbier est allé chercher sa vieille guitare Silvertone. Il fut un temps où j'aurais dit qu'on choisit nos chemins au hasard. Il se passe telle chose, puis telle autre, qui en entraîne une autre. Mais maintenant je sais. Il existe des forces extérieures. En 1963, avant que les Beatles ne déboulent sur la scène, l'Amérique a été la proie d'un bref mais puissant engouement pour la musique folk. Une émission de télé est arrivée pile au bon moment pour capitaliser sur ce phénomène. Hootenanny, qui présentait des interprètes blancs de l'expérience noire tels que Chad Mitchell Trio ou les New Christie's Minstrels. Les blancs perçus comme des cocos comme Pete Seeger ou John Baez n'étaient pas invités sur le plateau. Le grand frère de Billy Paquette, Ronnie, était le meilleur copain de mon frère Conrad. Et tous les samedis soirs, il regardait le hoot, comme il l'appelait, chez les Paquette. À cette époque, le grand-père de Ronnie et Billy habitaient avec eux. Il était connu sous le nom d'Hector le barbier, car il avait exercé ce métier pendant près de 50 ans, même s'il était difficile de l'imaginer dans ce rôle. Les barbiers, comme les barmans, sont censés être des personnalités sympathiques et bavardes. Or, Hector le barbier ne parlait pratiquement jamais. Il restait juste assis au salon, à vider des bouchons de bourbon dans son café et à fumer des tiparillos. L'odeur des cigares imprégnait toute la maison. Et les fois où il parlait, son discours était criblé d'obscénités. Toujours est-il qu'il aimait Hootenanny et qu'il le regardait toujours avec Conrad et Ronnie. Un soir, alors qu'un jeune blanc-bec venait de terminer de chanter un truc comme quoi sa chérie l'avait quitté et qu'il était trop triste, Hector le barbier renifla avec mépris et dit « Merde les garçons, c'est pas ça le blues » « Qu'est-ce que tu veux dire, grandpa ?» demanda Ronnie. « Le blues, c'est une musique qui a la rage. Ce petit gars, on aurait dit qu'il venait de pisser au lit et qu'il avait peur que sa maman s'en aperçoive. » Ça fit rire les garçons, en partie d'amusement, en partie de surprise de découvrir qu'Hector avait de l'étoffe comme critique musicale. « Attendez voir, » leur dit-il. Et il monta lentement l'escalier, se hissant de marche en marche en tirant sur la rampe de sa main noueuse. Hector resta absent si longtemps que les garçons avaient presque oublié qu'il devait redescendre quand il reparut, tenant une vieille Silvertone déglinguée par le cou. La caisse était rayée et rafistolée avec un bout de corde à foin effiloché. Les clés étaient de guingois. Hector s'assit en lâchant un grognement et un paix et remonta la guitare sur ses genoux osseux. « Éteignez-moi cette merde, » dit-il. Ronnie obéit. Le hoot était bientôt terminé de toute façon. « Je savais pas que tu jouais de la guitare, grandpa, » dit-il. « Pas joué depuis des années, » répondit Hector. « Mis au rancard quand l'arthrite a commencé à mordre. Je sais même pas si je suis encore capable d'accorder cette garce. »« Ton langage, papa !» cria Madame Paquette depuis la cuisine. Hector le barbier ne lui prêta aucune attention. Sauf s'il avait besoin qu'elle lui passe le plat de purée, il lui prêtait rarement attention. Il accorda la guitare lentement, tout en marmonnant des grossièretés dans sa barbe, puis joua un accord qui effectivement ressemblait un peu à de la musique. « Ça s'entendait qu'elle était encore un peu désaccordée, » m'a dit Connie quand il m'a raconté l'histoire plus tard, « mais c'était quand même vraiment chouette. »« Waouh !» fit Ronnie. « C'est quel accord ça, grandpa ?»« Mi. Toutes ces conneries commencent en mi. Mais attendez un peu, vous avez encore rien entendu. Voyons voir si je me souviens comment on caresse cette pute. » Depuis la cuisine, « Ton langage, papa !» Il n'y prêta guère plus d'attention, se mettant seulement à gratter sa vieille guitare avec un ongle biscornu et jauni par la nicotine en guise de médiator. Il démarra lentement, marmonnant toujours plus de gros mots dans sa barbe, puis trouva un rythme régulier, syncopé, qui fit échanger au garçon un regard de stupéfaction. Ses doigts glissaient le long du manche, montant et descendant gauchement d'abord, puis, alors que les vieilles synapses de sa mémoire se décrassaient, un peu plus souplement. Accord de si, puis la, puis sol, puis retour à mi. C'est une progression d'accords que j'ai bien joué une centaine de milliers de fois, même si en 1963, j'aurais pas su faire la différence entre un accord de mi et un accord du participe passé. D'une voix haut perchée et plaintive, radicalement différente de sa voix parlée, quand il parlait, le grand-père de Ronnie se mit à chanter. « Why don't you drop down, darling? Let your daddy see. You got something, darling. Keep on worrying me. » Madame Paquette sortit de la cuisine en s'essuyant les mains sur un torchon avec l'air de quelqu'un qui aurait vu un oiseau exotique, disons une autruche ou un émeu, descendre la route 9 au trot. Billy et la petite Rhonda Paquette, qui ne devaient pas avoir plus de 5 ans, dévalèrent la moitié des escaliers et se penchèrent par-dessus la rampe pour regarder leur vieux grand-père avec des yeux ronds. « Ce rythme, » me raconta Connie, « sûr que ça avait rien à voir avec ce qui passe dans Hootenanny. » Hector le barbier tapait maintenant du pied pour s'accompagner et il souriait. Connie m'a dit qu'il n'avait jamais vu le vieux sourire avant. C'était un peu effrayant, comme s'il s'était transformé en une espèce de vampire chantant.
« My mama don't allow me to fool around all night long. She's afraid some woman might,
il étira la note,
« might not treat me right. »«
Vas-y, grandpa !» s'écria Ronnie, riant et tapant des mains. Hector attaqua le deuxième couplet. Celui où le valet de carreau dit à la dame de pique d'y aller et de commencer ses mauvaisetés. Mais c'est là qu'une corde a pété.
Ch'tong! Oh, la petite salope!
A fait le vieux. Et c'en a été fini du petit concert impromptu d'Hector le barbier. Madame Paquette lui a arraché la guitare des mains, la corde cassée lui voltigeant dangereusement près de l'œil, et lui a dit que si c'était pour parler comme ça, il n'avait qu'à aller s'asseoir sous le porche. Hector le barbier n'est pas allé s'asseoir sous le porche, mais il s'est de nouveau muré dans son silence habituel. Les garçons ne l'ont plus jamais entendu chanter et jouer de la guitare. Il est mort l'été suivant, et ce fut Charles Jacobs, encore au sommet de sa forme en 1964, année des Beatles, qui célébra son enterrement. Le lendemain de cette version abrégée de « My Mama Don't Allow Me » d'Arthur Big Boy Crudup, Ronnie Paquette trouva la guitare dans l'un des barils à ordures au fond du jardin, remisé là par sa mère, outrée. Ronnie l'emporta à l'école et Madame Calhoun, la prof d'anglais qui était aussi prof de musique au collège, lui montra comment changer la corde et comment accorder la guitare en fredonnant les 3 premières notes de la sonnerie militaire d'extinction des feux. Elle donna aussi à Ronnie un numéro de Sing Out, magazine de musique folk, qui contenait les paroles et les tablatures de chansons comme Barbary Allen. Les 2 années suivantes, avec une brève interruption quand le bâton de ski du destin priva Connie de sa voix, les deux garçons apprirent chanson folk sur chanson folk, se passant la guitare à tour de rôle, tandis qu'ils apprenaient ces accords de base que Lead Belly avait dû gratter aussi pendant ses années de prison. Comme musicien, il ne cassait pas des briques, mais Connie avait plutôt une belle voix, encore que trop mélodieuse pour être convaincante dans le registre blues qu'il affectionnait. Ils jouèrent plusieurs fois en public sous le nom de Con and Ron. Ils avaient joué à pile ou face pour savoir quel nom ils mettraient en premier. Cranny a fini par avoir sa propre guitare, une Gibson acoustique vernis rouge cerise. Elle était sacrément mieux que la vieille Silverton d'Hector le barbier, et c'était sur celle-là qu'il jouait quand il chantait des trucs comme Seventh Son et Sugarland aux soirées talents de la grange Eureka. Papa et maman les encourageaient, et les copains de Cranny aussi. Mais le terme G.I.G.O., Garbage In, Garbage Out, s'applique aussi bien aux guitares qu'aux ordinateurs. Mauvais à l'entrée, mauvais à la sortie. Je prêtais peu d'attention aux efforts que Connie et Ron déployaient pour percer en tant que duo folk local, et j'ai à peine remarqué quand Conrad a commencé à perdre de l'intérêt pour sa Gibson. Après le départ du révérend Jacobs dans sa nouvelle vieille voiture, j'ai eu l'impression qu'il y avait comme un vide dans ma vie. J'avais perdu Dieu en même temps que mon seul ami adulte, et longtemps, je me suis senti triste et vaguement apeuré. Maman essaya de me remonter le moral, Claire aussi. Même mon père s'y était hasardé. Alors j'ai essayé d'être heureux à nouveau, et j'ai fini par y parvenir. Mais alors que 1965 laissait place à 1966, puis à 1967, j'étais à mille lieues de remarquer que les mauvaises reprises de morceaux comme « Don't Think Twice » avaient cessé de nous parvenir depuis l'étage. Cranny n'avait plus d'intérêt que pour les activités sportives du lycée. Il excellait nettement plus dans ce domaine qu'à la guitare. Quant à moi, une nouvelle fille venait d'emménager en ville, Astrid Soderberg. Elle avait des cheveux blonds soyeux, des yeux comme des bleuets et de petites piqûres de moustiques pointant sous son pull qui deviendraient certainement de vrais seins un jour. Pendant nos premières années de collège ensemble, je ne pense pas qu'elle m'ait jamais prêté la moindre attention, sauf si elle avait besoin de recopier mes devoirs, bien sûr. Moi, en revanche, je pensais à elle constamment. J'avais cette idée que si elle me laissait toucher ses cheveux, je pourrais avoir une crise cardiaque. Un jour, j'ai sorti le dictionnaire Webster du rayon des références. Je l'ai ramené à mon bureau et, le cœur cognant et les poils se hérissant, j'ai soigneusement écrit « Astrid » à côté du mot « embrasser ». Avoir un faible pour quelqu'un est une bonne expression pour ce genre de béguin, car c'est bien faible que je me sentais. Il ne m'est jamais passé par la tête de me servir de la Gibson de Conrad. Si je voulais écouter de la musique, j'allumais la radio. Mais le talent est une chose étrange. Il a cette façon de se présenter à vous avec discrétion, mais insistance le moment venu. Comme certaines drogues dures, il vient en ami bien avant que vous ne réalisiez que c'est un tyran. Je l'ai découvert par moi-même l'année de mes 13 ans. D'abord telle chose, puis telle autre, qui en entraîne une autre. Mon talent musical, loin d'être extraordinaire, était quand même nettement plus remarquable que celui de Cranny, ou de quiconque dans la famille, cela dit. Il s'est manifesté à moi par un samedi plombé de nuages et d'ennuis à l'automne 1969. Tous les autres, y compris Claire, rentrés de la fac pour le week-end, étaient partis à Gates Falls pour le match de football. Cranny, qui était alors en seconde au lycée là-bas, débutait comme demi-offensif avec les Gates Falls Gators. Moi, j'étais resté à la maison pour cause de mal au ventre, même si ce n'était pas aussi grave que je l'avais fait croire. J'étais pas tellement fan de football, en fait, et en plus, on aurait dit qu'il allait pleuvoir. J'ai regardé la télé un moment, mais s'il y avait encore plus de football sur deux chaînes et du golf sur la troisième. Pire, l'ancienne chambre de Claire était devenue celle de Cranny, mais il restait des livres de poche à elle dans le placard, et je me suis dit que je pourrais peut-être essayer de lire un Agatha Christie. Claire disait qu'ils étaient faciles à lire et que c'était amusant d'enquêter en même temps que Miss Marple ou Hercule Poirot. Je suis entré dans la chambre et j'ai vu la Gibson de Conrad dans le coin, entourée de tout un tas de vieux sing-out en désordre. Je l'ai regardée, appuyée là contre le mur et oubliée depuis longtemps, et j'ai pensé « Je me demande si j'arriverai à jouer Cherry Cherry là-dessus. » Je me souviens de cet instant aussi nettement que de mon premier baiser, parce que cette pensée était d'une exotique étrangeté, absolument déconnectée de ce que j'avais en tête en entrant dans la chambre de Cranny. Je pourrais le jurer sur une pile de Bible. Ça ne ressemblait même pas à une pensée. C'était comme une voix. J'ai pris la guitare et je me suis assis sur le lit. Je n'ai pas touché les cordes tout de suite. J'ai juste pensé un peu plus à cette chanson. Je savais qu'elle rendrait bien sur la Gibson acoustique de Conrad, parce que Cherry Cherry est construite autour d'un riff acoustique, même si je ne connaissais pas le mot à l'époque. Je l'ai écouté dans ma tête et je me suis rendu compte avec stupéfaction que je pouvais voir les changements d'accords, en plus de les entendre. Je savais tout ce qu'il y avait à savoir sur ces accords, sauf où ils se cachaient sur le manche. J'ai attrapé un numéro de Sing Out, au hasard, et j'ai cherché un blues, n'importe quel blues. J'en ai trouvé un qui s'appelait « Turn Your Money Green ». J'ai vu comment faire un accord de mi. Toutes ces conneries commencent en mi, avait dit Hector le Barbier à Conrad et Ronnie. Et je l'ai fait sur la guitare. Le son était étouffé, mais juste. Cette Gibson était un bel instrument, et même négligée, elle était restée accordée. J'ai appuyé plus fort avec trois doigts de la main gauche. Ça m'a fait mal, mais je m'en fichais. Parce que ce mi était juste, ce mi était divin. Il s'accordait parfaitement au son que j'avais dans la tête. Cranny avait mis 6 mois à apprendre « The House of the Rising Sun » et il n'avait jamais été capable de passer du ré au fa sans un moment d'hésitation pendant qu'il réarrangeait ses doigts. En 10 minutes, j'ai appris le riff en trois accords de Cherry Cherry. Mi, la, ré, la. Puis, je me suis rendu compte que je pouvais utiliser ces mêmes trois accords pour jouer Gloria des Shadows of Night et Louis Louis des Kingsmen. J'ai joué en avoir le bout des doigts qui hurlait de douleur et à ne presque plus pouvoir déplier ma main gauche. Quand j'ai enfin arrêté, ce n'est pas parce que je le voulais, mais parce que j'y étais obligé. Et je n'avais qu'une seule hâte, recommencer. Je me foutais des New Christy Minstrels, ou de Yann et Sylvia, ou de n'importe lequel de ces chanteurs folk à la gomme, mais j'aurais pu jouer Cherry Cherry toute la journée. Cette chanson avait le don de m'émouvoir. Je me suis dit que si j'apprenais à jouer suffisamment bien, peut-être qu'Astrid Soderberg me verrait autrement que comme un cahier de devoirs ambulant. Et encore, même ça, c'était une considération secondaire, parce que jouer comblait ce vide en moi. Jouer était une chose à part entière, une vérité émotionnelle. Jouer me redonnait le sentiment d'être quelqu'un de réel. Un autre samedi après-midi, trois semaines plus tard, au lieu de rester pour le traditionnel barbecue organisé par les supporters après le match, Connie rentra à la maison de bonne heure. J'étais assis sur le palier, en haut de l'escalier, à gratouiller Wild Thing. J'ai pensé qu'il allait se foutre en pétard et m'arracher la guitare des mains, peut-être même m'accuser de sacrilège pour oser jouer une nullité à trois accords des Trogs sur un instrument fait pour des chants de protestation d'une aussi grande sensibilité que Blowing in the Wind. Mais Connie avait marqué trois essais ce jour-là, battu le record du lycée de gains de terrain à la course et les Gators s'étaient qualifiés pour les séries éliminatoires de fin de saison. Tout ce qu'il me dit, ce fut « C'est la chanson la plus débile qui soit jamais passée à la radio. » « Non, j'ai dit, à mon avis, le prix revient à Surfin' Bird. »« Je sais la jouer aussi, tu veux l'entendre ?»« Bon Dieu, non, surtout pas !» Il pouvait se permettre de jurer parce que maman était dehors au jardin, papa et Terry au garage, en train de travailler sur la fusée du Macadam 3. Et notre grand frère, orienté religion, n'habitait plus à la maison. Comme Claire, Andy était étudiant à l'université du Maine, qui était un repère, prétendait-il, de bon à rien de hippie. « Mais ça te gêne pas si j'en joue, hein, Connie ?»« Vas-y, lâche-toi, » fit-il en passant à côté de moi. Il avait un beau bleu violacé sur la joue et il puait la sueur de footballeur. « Mais si tu la casses, tu la rembourses. »« Je la casserai pas. » »« Je ne l'ai pas cassée, mais j'ai bousillé pas mal de cordes. » Le rock, c'est plus dur pour les cordes que le folk. En 1970, je suis entré au lycée de Gates Falls de l'autre côté de la rivière Androscoggin. Connie, alors en terminale, est devenue une véritable vedette grâce à ses prouesses sportives et ses notes de premier de la classe, ne faisait pas attention à moi. Malheureusement, Astrid Soderberg non plus, même si elle était assise un rang derrière moi en salle d'études et juste à côté de moi en anglais. Elle avait toujours une queue de cheval et des jupes qui s'arrêtaient 5 cm au moins au-dessus du genou. Chaque fois qu'elle croisait les jambes, je mourais. J'avais plus qu'un faible pour elle. Mais je l'avais entendu discuter avec ses copines sur les gradins du gymnase pendant la pause déjeuner, et je savais que les seuls garçons qui trouvaient grâce à leurs yeux étaient les grands de terminale. Moi, j'étais qu'un figurant comme les autres dans l'épopée grandiose de leur toute jeune vie de lycéenne. Mais quelqu'un d'autre me remarqua. Un terminal dégingandé, cheveux longs, qui ressemblait à un des bons à rien de hippie de mon frère Andy. Il est venu me chercher un jour que je mangeais mon casse-croûte dans le gymnase, deux gradins au-dessus d'Astrid et sa clique de pintade. « T'es Jamie Morton ?» J'ai avoué prudemment. Il était en jean large rapiécé aux genoux et il avait de grosses cernes noires sous les yeux, comme s'il tenait avec juste 2-3 heures de sommeil par nuit. « Viens en salle de musique, » dit-il. « Pourquoi ?»« Parce que c'est moi qui le dis, petit. » Je l'ai suivi, me faufilant parmi la foule d'élèves rigolant, criant, se bousculant et claquant leurs portes de casier. J'espérais que j'allais pas me prendre une dérouillée. Je pouvais imaginer me faire tabasser par un première pour quelque raison futile. Le bizutage des secondes par les premières était interdit en principe, mais largement pratiqué dans les fêtes, mais pas par un terminal. Les terminales remarquaient rarement l'existence des secondes. Mon frère Connie en était un parfait exemple. La salle de musique était déserte. Ce fut un soulagement. Si ce type avait l'intention de se défouler sur moi, au moins, il n'avait pas une bande de copains pour l'aider. Au lieu de m'en coller une, il m'a tendu la main. Je l'ai serré. Ses doigts étaient mous et moites. Norm Irving. Enchanté. Je n'en étais pas vraiment sûr.
J'ai entendu dire que tu joues de la guitare, petit ?
Qui t'a dit ça ?
Ton frère, Monsieur Football.
Norm Irving a ouvert un placard rempli d'étuis de guitare. Il en a sorti un. Il a relevé les clapets et dévoilé une magnifique Yamaha électrique noire corbeau.
SA30, lâcha-t-il, laconique. Je l'ai eu il y a 2 ans. Passé tout l'été à peindre des maisons avec mon père. Allume l'ampli. Non, pas le grand, le petit portatif devant toi.
Je me suis approché du mini-ampli. J'ai cherché un bouton ou un interrupteur, mais je n'ai rien vu.
Derrière, petit.
Ah.
J'ai appuyé sur l'interrupteur à bascule.
Une lumière rouge s'est allumée, accompagnée d'un léger bourdonnement.
J'ai tout de suite aimé ce bourdonnement. C'était le son de la puissance.
Norm a déniché un câble dans le placard à guitare et l'a branché. Ses doigts ont frôlé les cordes et un bronc laconique est sorti du petit ampli. Un son atonal, dissonant et totalement beau. Il m'a tendu la guitare.
Quoi ?
J'étais tout aussi alarmé qu'excité.
Ton frère dit que tu joues des rythmiques, alors joue-moi des rythmiques.
J'ai pris la guitare et le même bronc est sorti du petit ampli posé à mes pieds. Elle était bien plus lourde que l'acoustique de mon frère.
J'ai jamais joué sur une électrique.
C'est pareil.
Qu'est-ce que je joue ?
Pourquoi pas Green River ?
Tu crois que tu saurais ?
Il a sorti un médiator de la poche de gousset de son jean et me l'a tendu. J'ai réussi à le prendre sans le laisser tomber.
En mi ?
Comme si j'avais besoin de demander. Toutes ces conneries commencent en mi.
C'est toi qui vois, petit.
J'ai passé la sangle par-dessus ma tête et positionné le rembourrage sur mon épaule. La Yamaha pendait beaucoup trop bas.
Norman Irving était bien plus grand que moi, mais j'étais trop nerveux pour penser à la rajuster.
J'ai joué un mi et sursauté tellement le son résonnait fort dans la salle de musique fermée. Ça l'a fait sourire, et ce sourire, dévoilant des dents qui allaient lui poser de sérieux problèmes plus tard s'il ne commençait pas à s'en occuper, m'a rassuré.
La porte est fermée, petit. Monte le volume et envoie le son.
Le volume était réglé à 5. Je l'ai monté à 7. Et le whang qui en résulta me sembla raisonnablement fort.
Je chante comme une casserole.
Je te demande pas de chanter, c'est moi qui chante. Contente-toi de jouer la rythmique.
Green River est construit sur un rythme rock'n'roll basique, pas tout à fait comme Cherry Cherry, mais pas loin.
J'ai rejoué le mi en écoutant le premier vers de la chanson dans ma tête et en décidant que c'était ça.
Norman a commencé à chanter.
Sa voix était presque engloutie par le son de la guitare, mais j'en entendais assez pour savoir qu'il était bon.
« Take me back down where cool water flows, yeah !»
J'ai fait un « la » et il s'est arrêté.
« On reste en mi, c'est ça ? » dis-je.
« Ok, désolé. »
Les 3 premiers vers étaient tous en mi. Mais quand je suis repassé en « la », comme la plupart du temps avec le rock standard, c'était encore pas ça.
« Je reprends où ?» j'ai demandé à Norman. Il m'a juste regardé, les mains dans les poches arrière de son jean.
J'ai écouté dans ma tête et repris.
Quand je suis arrivé au 4e vers, je suis passé en « do », et c'était ça.
J'ai dû recommencer du début, encore une fois, mais après ça, c'était du gâteau.
Il nous manquait juste une batterie, une basse et une guitare solo, bien sûr.
John Fogerty des Creedence Clearwater Revival rentrait ce solo comme j'ai jamais pu, même dans mes rêves les plus fous.
« Passe la gratte », m'a dit Norman. Je la lui ai passée, déçu de devoir la rendre.
« Merci de m'avoir laissé jouer dessus », j'ai dit.
Et j'ai commencé à me diriger vers la porte.
« 1 minute, Morton !»
C'était pas franchement mieux, mais au moins j'avais dépassé le grade de petit.
« L'audition est pas terminée !»«
L'audition ?» Il a attrapé un étui à guitare plus petit dans l'armoire. Il l'a ouvert et en a sorti une Kay semi-acoustique tout éraflée. Une K900G, pour ceux que ça intéresse.
Branche-la au gros ampli, mais baisse le volume à 4. Cette Kay a un feedback d'enfoiré.
J'ai fait comme demandé. La Kay était mieux ajustée que la Yamaha. J'aurais pas à me voûter pour en jouer. Il y avait un médiator coincé entre les cordes. Je l'ai pris.
Prêt ?
J'ai acquiescé.
1, 2, 1, 2, 3 et...
J'étais nerveux pendant que je négociais la progression d'accords de base de Green River. Mais si j'avais su à quel point Norman était bon,
Je crois que je n'aurais même pas pu jouer. J'aurais tout simplement pris la fuite. Il a exécuté le solo de Fogerty à la perfection, reproduisant les mêmes riffs que sur ce bon vieux single de chez Fantasy Records. Et il m'a entraîné avec lui. « Plus fort !» me cria-t-il. « Rien à foutre du feedback ! Balance le son !» J'ai monté le volume du gros ampli à 8 et repris de plus belle. Avec les deux guitares et un retour d'ampli aussi assourdissant qu'un sifflet de police, la voix de Norm disparaissait sous le son. Ça n'avait pas d'importance. J'ai collé au rythme et laissé la guitare solo m'entraîner. C'était comme surfer une vague parfaitement lisse qui déroulait sans casser pendant 2 minutes et demie. On est arrivé à la fin du morceau et le silence est retombé. J'avais les oreilles qui sifflaient. Norm a fixé le plafond, songeur, puis il a acquiescé. Pas extraordinaire, mais pas dégueulasse. Avec un peu de pratique, tu pourrais même devenir meilleur que Snuffy. C'est qui Snuffy ? J'ai demandé. Mes oreilles sifflaient toujours. Un type qui déménage dans le Massachusetts, dit-il. On essaye Needle and Pins pour voir ? Tu sais, les Searchers. Mi ? Non, celui-là commence en Ré. Mais pas un Ré classique. Il faut que tu l'arranges un peu. Il m'a montré comment je devais taper sur le Mi aigu avec mon petit doigt. Et j'ai aussitôt pigé le truc. Ça sonnait pas exactement comme l'original, mais c'était dans l'esprit. Quand on a terminé, je dégoulinais de sueur. « Ok, » il m'a fait en décrochant la sangle de sa guitare. « Viens, on va au coin fumeur. J'ai besoin d'une clope. » Le coin fumeur était derrière le bâtiment de Technopro. C'est là que traînaient les sécheurs de cour et les hippies, et aussi les filles à jupes moulantes, boucles d'oreilles pendantes et maquillage outrancier. Deux types étaient accroupis derrière l'atelier métallurgie. Je les avais déjà aperçus, comme j'avais déjà aperçu Norman, mais je ne les connaissais pas. L'un d'eux était blond comme les blés, avec beaucoup d'acné. L'autre avait une touffe frisée de cheveux roux qui partait dans 9 directions différentes. Ils avaient l'air de losers, mais je m'en fichais. Norman Irving aussi avait l'air d'un loser, mais c'était le meilleur joueur de guitare que j'avais jamais entendu ailleurs que sur un disque. « Il est comment ?» demanda le blond. Celui-là se révélerait être Kenny Laughlin. « Meilleur que Snuffy ?» répondit Norman. Celui aux exubérants cheveux roux sourit. « Ça veut dire que dalle, ça. »« Ouais, mais il nous faut quelqu'un pour jouer à la grange samedi soir. » Il sortit un paquet de coules et me le tendit. « Cigarette ?»« Je fume pas, » dis-je. Puis, me sentant stupide, mais incapable de me retenir, « Désolé. » Norman ignora ma dernière remarque et alluma sa clope avec un zippo orné d'un serpent gravé et de la formule « Me marchez pas sur les pieds ». Ça, c'est Kenny Laughlin. Basse. Le rouquin, c'est Paul Bouchard. Batterie. Et cette crevette, c'est le frère à Connie Morton. « Jamie, » dis-je. Je souhaitais désespérément que ces types m'aiment, qu'ils m'acceptent dans leur groupe, mais quelle que soit la nature de notre relation future, je ne tenais pas à la commencer en étant rien d'autre que le petit frère de Monsieur Football. Je m'appelle Jamie. Je leur tendis la main. Leur poignée de main était aussi flasque que celle de Norman. J'ai joué avec des centaines de musiciens depuis le jour où Norm Irving m'a fait passer cette audition dans la salle de musique du lycée de Gates Falls, et pratiquement tous les types avec qui j'ai bossé avaient cette même poignée de main de poisson mort. C'est comme si les rockers sentaient qu'il fallait économiser leurs forces pour le boulot. « Alors, qu'est-ce que t'en dis ?» me demanda Norman. « Tu veux faire partie d'un groupe ?» Si je voulais faire partie d'un groupe, s'il m'avait demandé de manger mes lacets en guise de rite d'initiation, je les aurais retirés sur le champ de leurs œillets et j'aurais commencé à mâcher. « Ouais, bien sûr, mais je peux pas jouer dans les endroits où on vend de l'alcool. J'ai que 14 ans. » Ils se regardèrent, surpris, et rigolèrent. On s'inquiétera de jouer au Holly ou au Deuce Four quand on aura un agent, dit Norman en soufflant la fumée par les narines. Pour le moment, on se contente des bals de jeunes. Comme celui de samedi à la Grange Eureka. C'est de là que tu viens, non? Harlow. Charlow, a fait Kenny Laughlin ricanant. C'est comme ça qu'on l'appelle. Harlow, le pays des Charlots. Bon, alors, t'es d'accord pour jouer? A dit Norm. Il a soulevé le pied pour écraser sa cigarette sous la semelle d'une de ses vieilles bottines Beatles, éculées. « Ton frère dit que tu joues sur sa Gibson, mais comme elle n'a pas de micro, tu peux utiliser la Kay. » Les profs de musique seront d'accord ? Les profs de musique en sauront rien. Rendez-vous à la grange jeudi après-midi. j'apporterai la quai. Et c'est juste de pas casser la putain de feedbackeuse. On installera le matos et on répétera. Apporte un carnet pour noter les accords. La sonnerie retentit. Les élèves écrasèrent leurs clopes et commencèrent à retourner vers les salles de classe. En passant, une des filles embrassa Norman sur la joue et lui donna une petite tape sur les fesses. Il ne sembla pas la remarquer, ce qui me parut incroyablement sophistiqué. Mon respect pour lui monta encore d'un cran. Aucun des membres de mon futur groupe ne semblant décidé à réagir, j'ai commencé à partir de mon côté. Puis, une dernière question m'est venue et je me suis retourné. « C'est quoi le nom du groupe ?» Norm a dit « Avant, on s'appelait les Pistoleros, mais les gens trouvaient que ça faisait un peu trop, tu sais, militariste. Alors maintenant, on est les Chrome Roses. C'est Kenny qui a eu l'idée pendant qu'on regardait une émission de jardinage chez mon père, complètement défoncée. Cool, hein ?» Au cours du quart de siècle qui a suivi, j'ai joué avec les J-Tones, Robin and the Jays et les Hey Jays, tous avec, pour guitariste solo, un type classieux du nom de Jay Peterson. J'ai joué avec les Heaters, les Stiffs, les Undertakers, les Last Call et les Andersonville Rockers. À l'époque florissante du punk, j'ai joué avec les Test Tube Babies, les Afterbirth, les Patsy Cline's Lipstick et The World is Full of Bricks. J'ai même joué avec un groupe rockabilly qui s'appelait Does Does Call the Fuzz. Mais comme nom de groupe, on n'a jamais fait mieux, selon moi, que les Chrome Roses. « Je ne sais pas, » a dit maman. Elle n'avait pas l'air fâchée, seulement guettée par la migraine. « Tu n'as que 14 ans, Jamie. » Conrad dit que ces garçons sont beaucoup plus âgés. On était à table. Elle paraissait beaucoup plus grande maintenant que Claire et Andy n'habitaient plus à la maison. « Est-ce qu'ils fument ?»«
Non. »
Ma mère se tourna vers Granny. « Est-ce qu'ils fument ?» Granny, qui était en train de passer le plat de maïs à la crème à Terry, n'a pas hésité une seconde. « Négatif. » Je l'aurais embrassé. On avait eu nos différends au fil des années, comme en ont tous les frères. Mais les frères ont aussi l'art de se serrer les coudes en cas de difficulté. « C'est pas dans des bars ou quoi, maman ?» j'ai dit, tout en ayant comme l'intuition que ce serait dans des bars, et probablement bien avant que le plus jeune membre des Chrome Roses n'ait atteint 21 ans. « Juste à la grange. On a répétition jeudi. »« Tu vas en avoir besoin, » insinua Terry avec sarcasme. « Envoie une autre côtelette. »« On dit s'il te plaît, Terry, » fit distraitement remarquer ma mère. « S'il te plaît, envoie une autre côtelette. » Papa lui passa le plat. Il n'avait encore rien dit. Ce qui pouvait être bon ou mauvais signe. « Comment te rendras-tu aux répétitions ? Et d'ailleurs, comment te rendras-tu à ces concerts ?» Norm a un combi Volkswagen. Enfin, c'est celui de son père, mais il l'a laissé peindre le nom du groupe dessus. Ce Norm ne doit pas avoir plus de 18 ans, dit maman. Elle avait arrêté de manger. Comment je sais si c'est un bon conducteur, moi? Mais maman, ils ont besoin de moi. Leur guitariste rythmique a déménagé dans le Massachusetts. Sans guitare rythmique, ils pourront pas jouer samedi soir. Une pensée s'embrasa comme un météore dans mon esprit. Peut-être qu'Astrid Soderbergh y serait ? C'est important, c'est super important. Je n'aime pas ça. Elle se massait les tempes maintenant. Mon père s'exprima enfin. Laisse-le y aller, Laura. Je sais que tu es inquiète, mais c'est là qu'il est bon. Que veux-tu ? Elle soupira. Bon, très bien. Je suppose que tu as raison. Merci, maman. Merci, papa. Ma mère reprit sa fourchette. Puis la reposa. Promets-moi de ne pas fumer de cigarettes ni de marijuana et de ne pas boire d'alcool. Je te le promets, j'ai dit. Et c'est une promesse que j'ai tenue pendant 2 ans, environ. De mon premier concert à la Grange Eureka numéro 7, ce dont je me souviens le mieux, c'est de l'odeur de ma sueur alors qu'on entrait tous les quatre sur le podium. Question transpiration, personne ne peut battre un ado de 14 ans. J'avais pris une douche de 20 minutes, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'eau chaude, avant mon concert de dépucelage. Mais quand je me suis penché pour attraper ma guitare d'emprunt, j'en pestais la peur. Lorsque j'ai passé la sangle par-dessus mon épaule, la quai m'a semblé peser 1 tonne. J'avais de bonnes raisons d'être mort de peur. Même en tenant compte de la simplicité intrinsèque du rock'n'roll, la mission que Norm Irving m'avait assignée, apprendre 30 morceaux entre jeudi après-midi et samedi soir, était impossible, et je le lui avais fait remarquer. Il avait haussé les épaules et m'avait donné le conseil le plus utile que j'ai jamais reçu de toute ma carrière de musicien. « Quand t'es pas sûr, assure quand même. » En plus, m'avait-il dit en découvrant ses dents cariées en un sourire diabolique, « ma guitare sera tellement forte qu'on t'entendra même pas. » Paul joua un court riff à la batterie pour obtenir l'attention du public et le ponctua d'un coup de cymbale. Une brève salve d'applaudissements, par anticipation, lui répondit. Tous les regards, des millions me semblait-il, étaient tournés vers la petite estrade où nous étions serrés sous les projecteurs. Je me rappelle m'être senti incroyablement stupide dans mon veston clouté de strass. Les vestons étaient des reliquats de la brève période durant laquelle les Crumb Roses avaient été les Pistoleros, et m'être demandé si je n'allais pas vomir. Ça semblait improbable étant donné que j'avais à peine touché à mon repas du midi et que j'avais été incapable de manger quoi que ce soit avant de venir, mais ça y ressemblait. Et puis je me suis dit, non, pas vomir, m'évanouir. C'est ça qui va m'arriver, je vais m'évanouir. J'aurais tout à fait pu, mais Norm ne m'en a pas laissé le temps. « On est les Crumb Roses, ok? Alors vous allez vous lever et danser !» Puis, à nous, un, deux, à trois, on y va. Paul Bouchard lança le battement de tambour qui sert d'intro à « Hang on, Sloppy » et c'était parti. Norm chantait, à part sur deux morceaux où Kenny prenait la relève, c'était lui le chanteur attitré du groupe. Paul et moi faisions les chœurs. Ça me gênait horriblement au début. Et puis, ma honte est passée quand j'ai entendu le son complètement différent, complètement adulte, que rendait ma voix amplifiée. Plus tard, j'ai réalisé que, de toute manière, personne ne fait vraiment attention au chœur. Quoique s'il n'y en avait pas, tout le monde le déplorerait. Je regardais les couples s'avancer sur la piste et commencer à danser. C'était pour ça qu'ils étaient venus. Mais tout au fond de moi, je n'avais pas cru qu'ils le feraient. Pas sûr de la musique que je jouais. Quand il me parut clair qu'on ne se ferait pas virer de scène sous les huées, j'ai senti monter une euphorie proche de l'extase. Depuis, j'ai pris des tas de drogues, de quoi couler un cuirassé, mais même la meilleure d'entre elles n'a pu égaler cette première montée. On jouait, il dansait. Le concert a duré de 19h à 22h30, avec une pause de 20 minutes vers 21h, quand Norm et Kenny ont lâché leurs instruments, éteint les amplis, et se sont précipités sans griller une dehors. Pour moi, ces heures sont passées comme dans un rêve. C'est pourquoi je n'ai pas été surpris quand, sur l'un des morceaux les plus lents, je crois que c'était « Who'll Stop the Rain », j'ai vu mes parents passer devant moi en valsant. La tête de maman reposait sur l'épaule de papa. Elle avait les yeux fermés et un petit sourire rêveur sur les lèvres. Mon père avait les yeux ouverts et il me fit un clin d'œil en passant devant le podium. Je n'avais aucune raison de me sentir embarrassé par leur présence, même si les balles du lycée et les balles de jeunes, qu'on appelait les Pal Hops à l'époque, à la patinoire de Lewiston, étaient strictement réservées aux adolescents. Il y avait toujours beaucoup d'adultes quand on jouait à la Grange Eureka ou à la salle des Helks et des Hambets de Gates Falls. Le seul truc dommage avec ce premier concert, c'est que même si certaines de ses amies étaient venues, Astrid, elle, n'était pas là. Mes parents sont rentrés tôt. Et c'est Norm qui m'a ramené dans son vieux combi. On était tous enivrés par notre succès, riant et revivant le concert. Et quand Norm m'a tendu un billet de 10 dollars, j'ai pas compris. « Ta part, » il m'a dit. « On a touché 50 en tout. 20 pour moi, parce que c'est mon bus et que c'est moi qui chante. 10 pour vous. » J'ai pris le billet, toujours comme un petit garçon dans un rêve, et de ma main gauche douloureuse, j'ai ouvert la porte coulissante. « Répète jeudi, » a dit Norm. Salle de musique après les cours, cette fois. Je ne pourrais pas te ramener, par contre. Je dois aider mon père à repeindre une maison à Castle Rock. J'ai dit qu'il n'y avait pas de problème. Si Connie ne pouvait pas me ramener, je ferais du stop. La plupart des gens qui passaient sur la route 9 entre Gates Falls et Harlow me connaissaient et quelqu'un me prendrait. Faut que tu bosses, brown-eyed girl. T'étais beaucoup trop à la traîne. J'ai dit oui, que je le ferais. Et Jamie? Je l'ai regardé. Tu t'es bien débrouillé, sinon. Mieux que Snuffy, a dit Paul. Bien mieux que ce pétzouille, a ajouté Kenny. Ça a presque compensé le fait qu'Astrid ne soit pas venue au concert. Papa était allé se coucher, mais maman était assise à la table de la cuisine avec une tasse de thé. Elle était en chemise de nuit de flanelle, mais elle avait gardé son maquillage, et je l'ai trouvée très jolie. Quand elle a souri, j'ai vu qu'elle avait les yeux pleins de larmes.
« Maman, ça va ?»«
Oui, elle m'a dit. Je suis juste heureuse pour toi, Jamie. Et un peu inquiète aussi. « Il n'y a pas de raison, maman, » j'ai dit en la prenant dans mes bras. « Tu ne vas pas te mettre à fumer avec ces garçons, hein ? Promets-le-moi. » »«
J'ai déjà promis, maman. » »«
Alors, promets à nouveau. » Ce que j'ai fait. Faire des promesses à 14 ans, c'est encore plus facile que de transpirer d'émotions. En haut, Cranny était allongé sur son lit en train de lire un livre de science. J'avais du mal à croire que quiconque puisse lire ce genre de bouquin pour le plaisir, surtout un footballeur de choc comme lui. Il a posé son livre et m'a dit « T'étais plutôt bon. »
« Comment tu le sais ?»
Il a souri. « Je suis passé jeter un coup d'œil. Juste une minute. T'étais en train de jouer cette chanson de gonzesse. Wild Thing. J'avais même pas eu besoin de demander. » On a joué à la salle des Amvets le vendredi suivant et au lycée le samedi. Au bal du lycée, Norm a changé les paroles de « I ain't gonna eat out my heart anymore » en « I ain't gonna eat out my girl anymore ». Les surveillants n'ont rien remarqué. Ils ne faisaient jamais attention aux paroles. Mais les élèves, si. Et ils ont adoré. Le gymnase du lycée était suffisamment grand pour avoir une super acoustique. Et le son qu'on a balancé, surtout sur des morceaux qui envoyaient comme « Good Lovin' », était phénoménal. Si je peux me permettre d'imiter les Slade, on leur a mis de la bonne musique dans les oreilles. À la pause, Kenny est parti au coin fumeur avec Norm et Paul. Alors j'y suis allé aussi. Plusieurs filles étaient là, notamment Hattie Greer, celle qui avait tripoté les fesses de Norm le jour de mon audition. Elle lui a passé les bras autour du cou et a pressé son corps contre le sien. Norm a passé les mains dans ses poches arrière pour l'attirer plus près de lui. Je faisais un gros effort pour ne pas les fixer. Une petite voix timide a résonné derrière moi. « Jamie ?» Je me suis retourné. C'était Astrid. Elle portait une jupe droite blanche et un chemisier bleu sans manches. Ses cheveux lâchés, libérés de la sage queue de cheval qu'elle portait en cours, encadraient son visage. « Salut, j'ai fait. » Et comme ça ne semblait pas vraiment suffire, « Salut Astrid, je t'ai pas vu à l'intérieur.
Ah, »« C'est parce que je suis arrivé en retard. J'ai dû venir avec Barney et son père.
Dis donc, vous êtes vraiment bon. »«
Merci. »
Norm et Hattie s'embrassaient avec ardeur. Norm était du genre bruyant et le bruit de leurs baisers me faisait un peu penser à l'électrolux de ma mère. D'autres couples se tripotaient plus discrètement, mais Astrid ne semblait pas y faire attention. Ses yeux lumineux ne quittaient pas mon visage. Elle portait de petites grenouilles en boucle d'oreille, des petites grenouilles bleues assorties à son chemisier. On remarque tout dans ce genre de moment. Pendant ce temps, elle semblait attendre que je dise quelque chose d'autre, alors j'ai amplifié ma remarque précédente.
« Merci beaucoup. »«
Tu vas fumer ?»«
Moi ?»
Pendant une fraction de seconde, je me suis imaginé qu'elle était envoyée par ma mère pour m'espionner. « Je fume pas. »«
Me raccompagner à l'intérieur, alors ?»
Je l'ai raccompagné. Il y avait 400 mètres du coin fumeur à la porte de derrière du gymnase. J'aurais aimé qu'il y ait 4 kilomètres.
« T'es venu avec quelqu'un ?»
j'ai demandé.
« Juste Barney et Carla, » elle m'a dit.
« Pas avec un garçon ou quoi. Mes parents veulent pas me laisser sortir avec des garçons avant que j'aie 15 ans. » Puis, comme pour me montrer ce qu'elle pensait d'une idée aussi sotte, elle m'a pris la main. Quand on est arrivé à la porte de derrière, elle a levé les yeux pour me regarder. J'ai failli l'embrasser alors, mais le courage m'a manqué. Les garçons peuvent être crétins des fois. Après le bal, alors qu'on était en train de charger la batterie de Paul à l'arrière du combi, Norm s'est adressé à moi d'un ton sévère, quasi paternel.
« Après la pause, t'étais faux sur tous les morceaux. Tu peux m'expliquer ?»«
Je sais pas, j'ai dit. Désolé, je ferai mieux la prochaine fois.
Il y a intérêt. Si on est bon, on a des dates. Si on n'est pas bon, que dalle !»
Il a tapoté le flanc rouillé du combi. « La petite Betsy marche pas au bulle d'air, et moi non plus d'ailleurs. »
« C'est à cause de cette fille, » a dit Kenny, la jolie blonde en jupe blanche.
Norm a paru pigé. Il a posé ses deux mains sur mes épaules et m'a infligé une petite secousse toute paternelle pour aller avec le ton.
« Alors vas-y, petit gars, conclue. Dès que tu peux, tu joueras mieux. »
Et il m'a filé $15. On a joué à la grange le soir de la Saint-Sylvestre. Il neigeait. Astrid était là. Elle portait une parka avec une capuche doublée de fourrure. Je l'ai emmenée sous l'escalier de secours et je l'ai embrassée. Elle avait mis du rose à lèvres au goût de fraise. Quand j'ai éloigné mon visage, elle m'a regardé avec ses grands yeux qu'elle avait. « Je croyais que t'allais jamais le faire », elle m'a dit. Puis elle a pouffé. « C'était bien ?»«
Recommence et je te dirai. »
On est resté à s'embrasser sous l'escalier jusqu'à ce que Norm vienne me taper sur l'épaule.
« Ça suffit, les enfants. C'est l'heure de jouer un peu de musique. »
Astrid m'a fait un dernier petit bisou sur la joue.
« Faites Wild Thing, je l'adore !» elle a dit.
Et elle a couru vers la porte de derrière, dérapant dans ses escarpins de danse. Norm et moi l'avons suivie.
« Priapisme ? Hein ?
Non, rien. On va jouer sa chanson en premier.
Tu sais comment on fait ? »
Je savais très bien. On jouait toujours plein de morceaux à la demande. J'étais heureux de faire la dédicace, parce que maintenant, je me sentais bien plus confiant quand j'avais la quai devant moi, tel un bouclier électrique, branché et prêt à démarrer. On est monté sur scène. Paula a joué le traditionnel riff de batterie pour signaler que le groupe était de retour et prêt pour le rock. Norm m'a adressé un signe de la tête pendant qu'il ajustait une sangle de guitare qui n'avait pas besoin d'être ajustée. Je me suis approché du micro central et j'ai braillé.
« Celle-ci est pour Astrid, à sa demande, et parce que... Wild Thing, I think I love you !»
Et même si d'habitude c'était le boulot de Norm, sa prérogative en tant que leader du groupe, j'ai compté pour lancer la chanson.
1, 2, 3, on y va. Sur la piste de danse, les copines d'Astrid la bousculaient en criant.
Elle avait les joues écarlates. Elle m'a envoyé un baiser.
Astrid Soderbergh m'avait envoyé un baiser.
Tous les garçons des Crumb Roses avaient donc une copine, ou peut-être que c'était des groupies. Quand on faisait partie d'un groupe, c'est pas toujours évident de faire la différence.
Norm était avec Hattie, Paul avec Suzanne Fournier, Kenny avec Carol Plummer, et moi avec Astrid.
Hattie, Suzanne et Carol s'entassaient parfois avec nous dans le combi quand on partait pour un concert. Astrid n'avait pas le droit, mais quand Suzanne pouvait emprunter la voiture de ses parents, elle avait la permission de monter avec les filles. Parfois, elles dansaient entre elles sur la piste. La plupart du temps, elles restaient à part dans leur petite bande et regardaient. Astrid et moi passions le plus clair des pauses à nous embrasser, et j'ai commencé à sentir un goût de cigarette dans son haleine. Je m'en fichais. Quand elle s'en est aperçue, les filles sont malines. Elle a commencé à fumer devant moi, et elle recrachait toujours une ou deux bouffées dans ma bouche pendant qu'on s'embrassait. J'aurais pu casser du béton avec la gaule que ça me filait. Une semaine après ses 15 ans, Astrid a eu la permission de venir avec nous en combi au Pal Hop de Lewiston. On s'est embrassé sur tout le trajet du retour, et quand j'ai glissé la main sous son manteau pour palper un sein maintenant nettement plus gros qu'une piqûre de moustique, elle ne m'a pas repoussé comme elle l'avait toujours fait.
C'est bon, murmura-t-elle à mon oreille. Je sais que c'est pas bien, mais c'est bon.
C'est peut-être pour ça que c'est bon, ai-je répondu. Les garçons ne sont pas toujours des crétins. Il m'a fallu attendre un mois de plus pour qu'elle accepte ma main dans son soutien-gorge, et deux avant qu'elle m'autorise à prolonger l'exploration sous sa jupe. Et quand je suis enfin parvenu là-haut, elle a reconnu que ça aussi c'était bon. Mais elle refusait d'aller plus loin. « Je sais que je tomberai enceinte dès la première fois », murmura-t-elle au creux de mon oreille pendant qu'on se garait un soir où on était particulièrement excités. « Je peux acheter des trucs à la pharmacie. Je pourrais aller à Lewiston où personne me connaît. » Carole m'a dit que ça craque des fois. Ça lui est arrivé avec Kenny, elle a angoissé pendant un mois après. Elle croyait qu'elle allait jamais avoir ses règles. « Mais on peut faire d'autres trucs. » Elle m'a dit quoi ? Les autres trucs étaient plutôt pas mal. J'ai eu mon permis de conduire à 16 ans, le seul de la fratrie à l'avoir du premier coup. Je le dois en partie à Ed, de l'auto-école Driver's Ed, mais surtout à Cicero Irving. Norm habitait avec sa mère, une fausse blonde au cœur gros comme ça, qui avait une maison à Gates Falls, mais il passait quasiment tous ses week-ends chez son père à Moton, juste à côté de Harlow, dans un parc à mobile homes miteux. Si on avait un concert le samedi soir, le groupe, et nos petites copines avec, se retrouvaient souvent au mobile home de Cicero, le samedi après-midi, pour partager des pizzas. Ça roulait des joints et ça fumait, et après avoir résisté et refusé pendant presque un an, j'ai craqué et essayé. Au début, j'ai trouvé difficile de garder la fumée, et puis, comme beaucoup de mes lecteurs le savent d'expérience, on finit par apprendre et ça devient facile. J'ai jamais fumé énormément à cette époque, juste assez pour me détendre avant un concert. Je jouais mieux quand j'étais encore un peu défoncé, et on rigolait toujours beaucoup dans ce vieux mobile home. Quand j'ai dit à Cicero que je passais mon permis la semaine suivante, il m'a demandé si l'examen avait lieu à Castle Rock ou là-haut, en ville, ce qui voulait dire Lewiston, Auburn. Quand j'ai dit L.A., il a acquiescé d'un air docte.
Ça veut dire que tu vas tomber sur Joe Cafferty. Il fait ce boulot depuis 20 ans. Je buvais souvent des coups avec lui, au Mellow Tiger, quand j'étais gendarme à Castle Rock. C'était avant que le Rock devienne assez grand pour avoir son propre commissariat de police, tu vois.
Pas facile d'imaginer Cicero Irving, le poil gris, les yeux rouges, maigre comme un clou, rarement vêtu d'autre chose que d'un pantalon de treillis et d'un Marcel, travailler dans les forces de l'ordre. Mais les gens changent. Parfois, ils grimpent dans l'échelle sociale et parfois ils descendent. Ceux qui descendent sont souvent aidés par des substances diverses et variées, comme celles que Cicero savait si bien rouler et partager avec les compadres mineurs de son fils. Le vieux Joey donne presque jamais le permis du premier coup, poursuivit Cicero. Par principe, il n'y croit pas. Ça, je le savais. Claire, Andy et Connie avaient tous été recalés par Joe Cafferty. Terry était tombé sur quelqu'un d'autre, peut-être que Cafferty était malade ce jour-là. Et même s'il avait toujours été un excellent conducteur depuis sa première fois au volant, il était tellement nerveux le jour du permis qu'il avait réussi à reculer dans une bouche d'incendie en faisant son créneau. Trois trucs, si tu veux réussir, me dit Cicero en passant le joint qu'il venait de rouler à Paul Bouchard. 1. Arrête de fumer cette merde, tu pourras reprendre après l'examen.
Ok.
À vrai dire, c'était plutôt un soulagement. J'aimais bien l'herbe, mais à chaque taf, je me souvenais de la promesse que j'avais faite à ma mère et que je rompais, même si je me consolais en me disant que je m'étais toujours pas mis aux cigarettes ni à l'alcool, ce qui veut dire que je me situais dans une bonne moyenne. 2. Appelle-le monsieur. Merci monsieur quand tu montes dans la voiture, merci monsieur quand tu descends, il aime ça. Pigé ?
Pigé.
Et 3. Le plus important, coupe-moi ces putains de cheveux. Joe Cafferty déteste les hippies. Ça me plaisait pas du tout comme idée. J'avais pris 7 cm depuis que j'avais rejoint le groupe, mais sur le plan capillaire, j'étais à la traîne. Il m'avait fallu 1 an pour les avoir presque jusqu'aux épaules. Et il y avait eu aussi pas mal d'accrochages avec mes parents, qui trouvaient que je ressemblais à un clodo. Le verdict de Andy avait été encore plus brutal. « Si tu veux ressembler à une fille, Jamie, pourquoi tu te mets pas en robe ?»« Bon sang, rien ne vaut la raison raisonnante d'un chrétien, pas vrai ?» « Oh merde, si je me coupe les cheveux, je vais avoir l'air d'un intello. »«
T'as déjà l'air d'un intello, » me fit Kenny.
Et tout le monde de rire. Même Astrid. Puis elle posa une main sur ma cuisse pour atténuer la pique. « Ouais, » dit Cicero Irving, « t'auras l'air d'un intello avec un permis de conduire. Polly, tu comptes allumer ce pétard ou juste rester là à l'admirer ?» J'ai arrêté l'herbe. J'ai donné du monsieur à Joe Cafferty. Et je me suis fait faire une coupe de cheveux à la Monsieur Businessman qui m'a plombé le cœur et a allégé celui de ma mère. En manœuvrant pour mon créneau, j'ai heurté le pare-choc de la voiture garée derrière. Mais le père Cafferty m'a quand même donné mon permis.
« Je te fais confiance, fiston, » m'a-t-il dit.
« Merci, monsieur, je ne vous décevrai pas. » Pour mes 17 ans, j'ai eu droit à une fête d'anniversaire à la maison, maintenant située en bordure d'une route goudronnée. La marche du progrès. Astrid était invitée, bien sûr. Elle m'a offert un pull qu'elle avait tricoté elle-même. Je l'ai mis tout de suite, même si on était en août et que la journée était étouffante. Maman m'a offert la collection reliée des romans historiques de Kenneth Roberts, que j'ai vraiment lu. Andy, une bible reliée cuir, que j'ai aussi lu, surtout pour le contrarier, avec mon nom imprimé en or sur la couverture. La dédicace sur la page de garde était tirée de l'Apocalypse, chapitre 3. « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui. » Le sous-entendu, que j'étais un renégat, n'était pas totalement injustifié. De la part de Claire, qui avait alors 25 ans et enseignait dans le New Hampshire, j'ai reçu une élégante veste en tweed. Connie, toujours un peu radin, m'a offert 6 jeux de cordes de guitare. Bon, au moins, c'était des dollar slicks. Ma mère a apporté le gâteau d'anniversaire et tout le monde a poussé la chansonnette. Si Norm avait été là, il aurait probablement éteint toutes les bougies de sa voix de chanteur de rock. Mais il n'était pas là, alors c'est moi qui les ai soufflées. Alors que maman faisait passer les assiettes, j'ai réalisé que papa et Terry ne m'avaient rien offert, pas même une cravate de hippie à fleurs. Après le gâteau et la glace, Fraise Van Schaak, bien sûr, j'ai vu Terry jeter un coup d'œil à papa. Papa a regardé maman qui lui a adressé un petit sourire nerveux. Ce n'est que rétrospectivement que je me rends compte que ce petit sourire nerveux, je l'ai souvent vu sur le visage de ma mère à mesure que ses enfants grandissaient et s'en allaient dans le monde. « Allons faire un tour dans la grange, Jamie, » dit mon père en se levant. « Terence et moi avons un petit quelque chose pour toi. » Le petit quelque chose s'avéra être une Ford Galaxy 1966. Elle était lavée, lustrée et aussi blanche que la neige au clair de lune. « Oh mon Dieu !» j'ai soufflé, et tout le monde a ri. La carrosserie était en bon état, mais le moteur avait besoin d'une petite révision, m'a dit Terry. « Moi et papa, on a rodé les soupapes, changé les bougies, remplacé la batterie, la totale. « Pneu neuf, » a dit papa en montrant les roues. « Noir, sans bande blanche, mais c'est du neuf, pas du rechappé. Elle te plaît, fiston ?» J'ai serré mon père dans mes bras. Je les ai serrés tous les deux dans mes bras. « Promets-nous juste à ta mère et moi de ne pas prendre le volant si tu as bu. Ne nous fais pas regretter un jour de t'avoir offert quelque chose qui aurait servi à te blesser ou à blesser quelqu'un d'autre. « Je vous le promets, » j'ai dit. Astrid, avec qui j'allais partager le cul d'un joint en la ramenant chez elle dans ma nouvelle voiture, m'a serré le bras en disant « Et je veillerai à ce qu'il tienne sa promesse. » Après avoir fait deux voyages aller-retour jusqu'à l'étang de Harry avec ma nouvelle voiture pour pouvoir emmener tout le monde, l'histoire s'est répétée. J'ai senti quelqu'un me prendre par la main. C'était Claire. Elle m'a entraîné dans le débarras exactement comme le jour où le révérend Jacobs avait utilisé son SNE pour rendre sa voix à Connie. « Maman veut que tu fasses une autre promesse, » me dit Claire. « Mais elle est trop gênée pour te le demander. » Alors j'ai dit que j'allais m'en charger. J'attendais. « Astrid est une chouette fille, » reprit Claire. « Elle fume, ça se sent à son haleine, mais ça ne la rend pas mauvaise pour autant. Et elle a du goût. Rester avec toi pendant 3 ans le prouve. » J'attendais toujours. Et c'est une fille intelligente aussi. Un bel avenir l'attend à l'université. Donc voilà ce qu'on te demande, Jamie. Ne la mets pas enceinte sur la banquette arrière de cette voiture. Tu peux promettre ça? J'ai failli sourire. Si je l'avais fait, ça aurait été un sourire mi-amusé, mi-chagriné. Ces deux dernières années, Astrid et moi avions eu un nom de code, récré, c'est-à-dire masturbation mutuelle. Après notre première récré, j'avais plusieurs fois évoqué les préservatifs avec Astrid. J'étais même allé jusqu'à acheter un paquet de 3 Trojans, un que j'avais rangé dans mon portefeuille, les 2 autres derrière la plinthe de ma chambre. Mais elle était convaincue que le premier qu'on utiliserait se déchirerait ou fuirait. Donc, récré. « T'es fâché contre moi ?» m'a demandé Claire. « Mais non, » j'ai répondu. « Non, Clairette, je ne serai jamais fâché contre toi. » Je ne l'ai jamais été. J'ai gardé ma colère en réserve pour le monstre qu'elle allait épouser. Et cette colère ne m'a jamais lâché. Je l'ai prise dans mes bras et lui ai promis que je ne mettrai pas Astrid enceinte. C'est une promesse que j'ai tenue, même si avant ce jour-là, dans la cabane près de Skytop, on n'en a pas été loin. Au cours de ces années, j'ai souvent rêvé de Charles Jacobs. Je le voyais enfoncer ses doigts dans ma montagne imaginaire pour y creuser des grottes ou prêcher son terrible sermon. Des flammes bleues encerclant sa tête, tel un diadème électrique. Mais il s'était, pour ainsi dire, évanoui de mon esprit conscient jusqu'à un jour du mois de juin 1974. J'avais 18 ans, Astrid aussi. C'était les vacances. Les Chrome Roses avaient des dates pour tout l'été, dont quelques-unes dans des bars, pour lesquelles mes parents m'avaient, non sans réticence, rédigé des autorisations écrites, et comme l'année précédente, je passerais mes journées à travailler à la ferme des Marsteller. La Morton Fuel Oil prospérait, et mes parents avaient les moyens de me payer mes frais de scolarité à l'Université du Maine, mais il était convenu que je participe. J'avais toutefois une semaine de battement avant d'embaucher à la ferme, et c'est autant de temps que nous avons passé ensemble, Astrid et moi. Des fois, nous allions chez moi, d'autres fois chez elle. La plupart des après-midi, on prenait ma galaxie et on allait se balader sur les petites routes de campagne. On trouvait une place où se garer et puis... récré. Cet après-midi-là, on était dans une carrière abandonnée pas loin de la route 9, à se faire passer un joint de pas super bon herbe local. Il faisait lourd et de gros nuages noirs s'amoncelaient à l'ouest. Le tonnerre grondait, et il dut y avoir un éclair. Je ne l'ai pas vu, mais les haut-parleurs du tableau de bord ont grésillé, parasitant momentanément « Smoking in the Boys' Room », une chanson que les Roses jouaient à tous les concerts cette année-là. C'est alors que le révérend Jacobs s'est présenté à mon esprit, tel un convive resté longtemps absent, et j'ai démarré la voiture. « Écrase le joint, j'ai dit. On part en balade. » « Où ça ?»« Un endroit dont on m'a parlé il y a longtemps, s'il existe toujours. » Astrid rangea la fin du joint dans une boîte de pastilles pour la toux qu'elle glissa sous le siège. Nous avons roulé 2-3 kilomètres sur la route 9, puis j'ai pris en direction de l'ouest, sur Goat Mountain Road. Les arbres bordaient massivement les bas-côtés de la route, et les derniers rayons du soleil voilé de cette journée disparaissaient alors que les nuages d'orage approchaient. « Si c'est à la station que tu penses, ils nous laisseront pas entrer, » me dit Astrid. « Mes parents sont plus adhérents. Ils ont dit qu'ils devaient économiser si je dois aller à la fac à Boston. » Elle plissa le nez. « Non, pas à la station. » Nous avons longé Long Meadow, où l'UGM organisait naguère sa traditionnelle grillade de saucisses annuelles. On voyait des gens regarder nerveusement vers le ciel tout en rassemblant leurs nappes et leurs glacières et courir vers leurs voitures. Le tonnerre résonnait plus fort à présent. De lourds wagons roulaient dans le ciel et j'ai vu un éclair tomber quelque part de l'autre côté de Skytop. J'ai senti l'excitation monter. « Magnifique !» avait dit Charles Jacobs le jour de son départ. « Magnifique et terrifiant !» Nous avons dépassé un panneau indiquant « Entrée Goat Mountain, 2 km, présenter carte adhérent, SVP. » « Jamie !» Normalement, il y a un chemin qui monte à Skytop, j'ai dit. Peut-être qu'il n'est plus là, mais... Il était toujours là. Et il était toujours gravillonné. Je m'y suis engagé un peu trop rapidement, et l'arrière de la galaxie a chassé d'un côté à l'autre. « J'espère que tu sais ce que tu fais, » m'a dit Astrid. Elle n'avait pas l'air effrayée de foncer droit sur un orage d'été. Elle avait plutôt l'air intéressée et un peu excitée. « J'espère aussi. » La pente grimpait plus raide. L'arrière de la galaxie dérapait de temps à autre sur les gravillons, mais dans l'ensemble, la voiture demeura stable. 4 kilomètres après l'embranchement, les arbres se sont clairsemés et Skytop est apparu. Astrid a étouffé un cri de surprise et s'est redressée sur son siège. J'ai écrasé la pédale de frein et ma voiture s'est arrêtée dans un crissement de gravier. Sur notre droite se dressait une vieille cabane aux vitres brisées et au toit affaissé couvert de mousse. Des graffitis enchevêtrés, la plupart trop délavés pour être encore lisibles, dansaient sur les parois grises en bois brut. En face, au-dessus de nous, s'élevait un grand front de granit proéminent. Au sommet, exactement comme Jacobs me l'avait raconté il y avait de cela la moitié de ma vie, un mât en fer pointait vers les nuages, désormais noirs, et si bas qu'on aurait cru pouvoir les toucher. Sur notre gauche, vers où Astrid regardait, des collines, des champs et des kilomètres d'étendues boisées vert-gris s'étiraient jusqu'à l'océan. Dans cette direction, le soleil brillait encore, embrasant le monde. « Oh mon Dieu, ça a toujours été là? Et tu m'y as jamais emmené ?»« Je m'y suis jamais emmené moi-même, j'ai dit. C'est notre ancien pasteur qui me... » Je n'eus pas le temps d'en dire plus. Un éclair aveuglant tomba du ciel. Astrid cria et se couvrit la tête avec les mains. Durant un instant, étrange, terrible, merveilleux, il me sembla que l'air avait été remplacé par du fioul. J'ai senti tous les poils de mon corps, même les plus fins, dans mon nez et mes oreilles se raidir. Puis on a entendu ce clic, comme si un géant invisible avait claqué des doigts. Un deuxième éclair zébra le ciel et frappa le mât en fer, le faisant virer au même bleu électrique que j'avais vu danser dans mes rêves autour de la tête de Charles Jacobs. J'ai dû fermer les yeux pour ne pas être aveuglé. Quand je les rouvris, le mât flamboyait d'un éclat rouge cerise. « Comme un fer à cheval dans la forge », avait-il dit. Et c'était exactement ça. Aussitôt après, le coup de tonnerre a rugi. « Tu veux qu'on s'en aille ?» Je criais, pour m'entendre moi-même car mes oreilles sifflaient. « Non » cria-t-elle aussi, « là-bas !» Et elle montra du doigt les restes écroulés de la cabane. J'ai pensé lui dire que l'on serait plus en sécurité dans la voiture, vague souvenir d'un adage selon lequel les pneus en caoutchouc sont isolants et peuvent vous protéger de la foudre. Mais il y avait eu des milliers d'orages sur Skytop et la vieille cabane était toujours là. Alors que nous courions vers elle, main dans la main, j'ai réalisé qu'il y avait une bonne raison à cela. Le mât en fer attirait la foudre, du moins l'avait-il fait jusqu'ici. Au moment où nous atteignions la porte ouverte de la cabane, il s'est mis à grêler. Des glaçons gros comme des graviers crépitaient sur le granit.
« Aïe, aïe, aïe !» cria Astrid,
mais elle riait en même temps. Elle se précipita à l'intérieur. Je lui emboîtai le pas juste au moment où la foudre tombait de nouveau. De l'artillerie sur un champ de bataille apocalyptique. Cette fois-ci, l'éclair fut précédé d'un clac au lieu d'un clic. Astrid me saisit l'épaule. « Regarde !» J'avais manqué la deuxième frappe de l'orage sur le mât, mais je vis clairement ce qui suivit. Des feux de Saint-Elme jaillirent du mât et dévalèrent en bondissant la pente jonchée d'éboulis. Il y en eut une demi-douzaine. Un par un, ils flambèrent et se consumèrent. Astrid m'étreignit, mais ce n'était pas assez. Elle noua solidement ses mains autour de mon cou et m'escalada, refermant solidement ses jambes autour de mes hanches. « C'est fantastique !» s'écria-t-elle. La grêle se changea en pluie et ce fut le déluge. Skytop s'estompa, mais le mât en fer, frappé de façon répétée par la foudre, ne disparaissait jamais à notre vue. Il s'embrasait, bleu ou violet, puis rouge, puis se décolorait avant d'être frappé à nouveau. Ce genre de pluie ne dure jamais longtemps. Alors qu'elle se calmait, nous vîmes que la pente de granit au pied du mât en fer s'était métamorphosée en rivière. Le tonnerre continuait de gronder, mais il perdait de sa fureur et ne faisait plus entendre que quelques sautes d'humeur. On entendait de l'eau ruisseler partout, comme si la terre chuchotait. À l'est, le soleil brillait toujours au-dessus de Brunswick, Freeport et Jerusalem's Lot, et nous vîmes non pas un ni deux arcs-en-ciel, mais six, entrelacés tels des anneaux olympiques. Astrid me fut pivotée vers elle. « J'ai quelque chose à te dire. » Elle parlait à voix basse. « Quoi ?» J'eus tout à coup la certitude qu'elle s'apprêtait à détruire ce moment de grâce en m'annonçant qu'elle voulait rompre. Ma mère m'a emmené chez le médecin le mois dernier. Elle m'a dit qu'elle ne voulait pas savoir où on en était, toi et moi, que ça la regardait pas, mais qu'elle avait besoin d'être sûre que je faisais attention à moi. C'est les mots qu'elle a employés. Tout ce que tu as à dire au docteur, c'est que tu la veux parce que tes règles sont douloureuses et irrégulières, elle m'a dit. En voyant que je suis venu avec toi, il acceptera. J'imagine que j'étais un peu lent à la détente, alors elle m'a donné un petit coup de poing sur le plexus. La pilule contraceptive, idiot. Ovral, c'est bon maintenant, parce que j'ai eu mes règles depuis que j'ai commencé à la prendre. J'attendais le moment parfait. Et si ça, c'est pas le moment parfait, alors on peut toujours l'attendre. Ses yeux lumineux dans les miens. Puis elle les a baissés et a commencé à se mordre la lèvre. Juste, essaye de pas t'emballer, d'accord? Pense à moi et sois délicat. Parce que ça me fait peur. Carole m'a dit que la première fois, ça lui a fait super mal. Nous nous sommes déshabillés, jusqu'au bout, enfin, pendant que les nuages s'effilochaient dans le ciel, que le soleil brillait au travers et que le murmure de l'eau ruisselante commençait à se dissiper. Elle avait déjà les bras et les jambes tout bronzés. Le reste de son corps était blanc comme neige. Ses poils pubiens étaient de l'or fin, soulignant son sexe plutôt que le dissimulant. Il y avait un vieux matelas posé dans le coin où le toit était encore intact. Nous n'étions pas les premiers à utiliser cette cabane pour l'usage que nous en avons fait ce jour-là. Elle m'a guidé en elle, puis m'a interrompu. Je lui ai demandé si ça allait. Elle m'a répondu que oui, mais qu'elle voulait le faire elle-même. « Bouge pas, mon chéri, bouge pas, reste comme ça. » Je n'ai pas bougé. C'était un supplice de ne pas bouger, mais c'était également merveilleux. Elle a soulevé les hanches. Je me suis glissé un peu plus profondément en elle. Elle l'a encore fait, et j'ai glissé en elle encore un peu. Je me souviens de mes yeux se posant sur le matelas, des vieux motifs fanés, des taches de terre, de la fourmi qui s'y promenait. Et qu'Astrid a encore soulevé les hanches. Je suis entré tout entier, et elle a étouffé un cri. « Oh mon Dieu! Ça te fait mal, Astrid? Ça te fait... »« Non, c'est merveilleux. Je crois que... tu peux le faire maintenant. » »« Je l'ai fait. Nous l'avons fait. » Ce fut notre été de l'amour. Nous l'avons fait dans divers endroits, une fois dans la chambre de Norm, dans le mobile home de son père. On avait cassé son lit et dû le réparer. Mais le plus souvent, nous allions à la cabane de Skytop. C'était notre endroit. et nous avons écrit nos noms sur l'un des murs, parmi une cinquantaine d'autres. Il n'y eut pas d'autre orage cependant, pas cet été-là. À l'automne, je suis entré à l'université du Maine et Astrid à l'université Suffolk de Boston. Je supposais que ce serait une séparation temporaire. On se verrait pendant les vacances et à un moment encore flou dans le futur, lorsqu'on serait tous les deux diplômés, on se marierait. L'une des rares choses que j'ai apprises depuis sur les différences fondamentales entre les sexes est la suivante. Les hommes font des suppositions, les femmes rarement. Le jour de l'orage, sur le trajet du retour, Astrid m'a dit « Je suis contente que t'aies été mon premier. » Je lui ai répondu que j'étais content, moi aussi, sans même réfléchir à ce que sa remarque impliquait. Il n'y a pas eu de grosse scène de rupture. On s'est simplement éloigné peu à peu. Et s'il y eut un artisan responsable de ce dépérissement progressif, ce fut Delia Soderbergh, la discrète et jolie maman d'Astrid, qui se montrait indéfectiblement aimable, mais me regardait toujours comme un commerçant examine un billet de $20 suspect. « Peut-être que c'est un vrai, » se dit le commerçant, « mais il a quand même un petit quelque chose de bizarre. » Si Astrid était tombée enceinte, mes suppositions quant à notre avenir auraient pu se vérifier. Et quoi ? On aurait pu être très heureux. 3 enfants, un garage pour 2 voitures, une piscine, tout le reste. Mais je n'y crois pas. Je pense que les concerts incessants et les filles qui traînent toujours autour des groupes de rock auraient eu raison de nous. Rétrospectivement, je suis bien obligé de me dire que les soupçons de Delia Soderbergh étaient justifiés. J'étais un faux billet de vin, suffisamment bien imité pour passer dans la plupart des magasins peut-être, mais pas dans le sien. Il n'y a pas eu non plus de grosse scène de rupture avec les Chrome Roses. Le premier week-end où je suis revenu à la maison après ma rentrée universitaire à Orono, j'ai joué avec le groupe à la salle des Amvets le vendredi soir et au Scooter's Pub de North Conway le samedi. On a été aussi bons que d'habitude et on se faisait maintenant $150 par concert. Je me souviens avoir chanté sur Shake Your Money Maker et joué un solo plutôt sympa à l'harmonica. Mais quand je suis rentré pour Thanksgiving, j'ai découvert que Norm avait engagé un nouveau guitariste rythmique et changé le nom du groupe, qui s'appelait maintenant les Norman's Knights. « Désolé, mec », il m'a dit en haussant les épaules. « Mais les propositions de concert se bousculaient et je peux pas bosser en trio. Une batterie, une basse, 2 guitares, c'est ça le rock. » « C'est cool », j'ai dit. « Je comprends. » Et je comprenais, parce qu'il avait raison. Ou presque. Une batterie, une basse, 2 guitares, et tout commence en mi. On joue à Ragged Pony, à Winthrop, demain soir, si tu veux passer. Genre artiste invité. Merci, mais non. J'avais entendu le nouveau guitariste rythmique. Il avait 1 an de moins que moi, et il était déjà meilleur. Ce mec grattait comme un possédé. En plus, ça voulait dire que je pourrais passer ma soirée du samedi avec Astrid, ce que j'ai fait. Je soupçonne qu'elle sortait déjà avec d'autres gars à ce moment-là. Elle était trop jolie pour rester dans son coin. Mais elle était discrète et tendre. Ce fut un bon week-end de Thanksgiving. Les Chrome Roses ou les Norman's Knights, un nom auquel j'aurais jamais pu m'habituer, ce qui tombait très bien, ne m'ont pas du tout manqué. Enfin, vous savez, presque pas. Peu avant les vacances de Noël, un jour que je passais me prendre un burger et un coca au foyer des étudiants de l'université, je me suis arrêté en sortant pour jeter un œil au panneau d'affichage. Au milieu du fouillis d'annonces pour des bouquins à vendre, des voitures à vendre et des demandes de trajets en stop vers des destinations diverses, je suis tombé sur ça. Bonne nouvelle! Les Cumberland se reforment. Mauvaise nouvelle, nous manque un guitariste rythmique. On est fiers d'être un groupe de reprises qui défrise. Si tu sais jouer les Beatles, les Stones, les Badfinger, les McCoys, les Barbarians, les Standells, les Birds, etc., viens faire un tour, salle 421, bâtiment Cumberland, et ramène ta gratte. Si t'aimes Emerson, Lake & Palmer ou Blood, Sweat & Tears, reste où tu es. À cette époque, j'avais une Gibson SG rouge vif. Et cet après-midi-là, après les cours, je l'ai trimballée jusqu'au bâtiment Cumberland où j'ai fait la connaissance de Jay Peterson. À cause de la réglementation contre le bruit pendant les heures de cours, on a joué en acoustique dans sa chambre. Plus tard dans la soirée, on est descendu se brancher dans la salle commune de la résidence universitaire. On a joué du rock à fond pendant une demi-heure et j'ai décroché la place. Il était largement meilleur que moi. Mais j'avais l'habitude. Après tout, j'avais commencé ma carrière dans le rock'n'roll avec Norm Irving. Je pense changer le nom du groupe et l'appeler les Heaters, m'a dit Jay. T'en penses quoi?
Pourvu que j'aie le temps de bosser mes cours la semaine et que je touche ma part, je m'en fous si tu décides de l'appeler les Trous du cul de l'enfer.
Chouette nom, aussi classe que Doug and the Hot Nuts, mais je doute que ça nous fasse décrocher beaucoup de balles de lycée. Il m'a tendu la main, je l'ai prise, et on a échangé cette fameuse poignée de main de poisson mort.
Bienvenue à bord, Jamie. Répète mercredi soir, ramène-toi et joue pas les rabat-joie.
J'étais beaucoup de choses, mais sûrement pas rabat-joie. Je me suis ramené. Pendant presque 2 décennies, avec 12 de groupes et dans 100 de villes, je me suis ramené. Un guitariste rythmique peut toujours trouver du boulot, même s'il est tellement défoncé qu'il peut à peine tenir debout. En gros, ça se résume à 2 choses. Se ramener et être capable de jouer un mi. Les problèmes ont commencé quand j'ai cessé de me ramener.